Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1. C'est l'image de la soirée, les 22 joueurs et les arbitres, un genou à terre pour dire non au racisme. Le match de Ligue des Champions interrompu et reporté hier s'est poursuivi ce soir. Démonstration du Paris Saint-Germain qui l'a emporté 5-1 face aux Turcs du Başakşehir. Un texte qui n'est pas contre les religions mais qui vise l'islamisme radical. Voilà comment Jean Castex a présenté aujourd'hui le projet de loi confortant les principes républicains. Quelles mesures ont été retenues ou à l'inverse abandonnées? Décryptage dans ce journal. Alors qu'en France, on se demande si le déconfinement va bien avoir lieu le 15 décembre. En Allemagne, Angela Merkel est sortie de ses gonds face à la progression de l'épidémie dans son pays. La chancelière a supplié les Allemands de s'isoler avant Noël. Au sommaire également, l'Agence européenne des médicaments, victime d'une cyberattaque, des documents sensibles sur un vaccin dérobé, des faillites d'entreprises en net recul ces trois derniers mois. Merci les aides d'État et puis les plaidoiries de la défense au procès de l'affaire des écoutes. Prison ferme avait demandé hier le parquet. Relax, a répondu aujourd'hui l'avocate de Nicolas Sarkozy. Deux vigilances orange sont en cours ce soir. Vigilance crue dans les Landes, vigilance avalanche dans les Pyrénées-Atlantiques. Prudence donc. Demain, pluie, neige et grisaille au programme, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en baisse, moins 0,25% à 5 546 points. Tous les détails à venir avec Claire Lemaître de Boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Premier vol commercial aujourd'hui pour le Boeing 737 MAX, modèle qui était cloué au sol depuis 20 mois après deux crashs mortels. Emmanuel Duteil reçoit à ce sujet Eric Schulz, spécialiste de l'aérien et ancien directeur commercial d'Airbus. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le football a donc repris ses droits ce soir au Parc des Princes. Au lendemain de cet incident historique, l'interruption puis le report du match de Ligue des Champions entre le PSG et le club turc du Başakşehir. Les images ont fait le tour du monde, celles de ces joueurs protestant contre le quatrième arbitre, coupable à leurs yeux d'avoir proféré des insultes racistes. La rencontre a pu donc se terminer ce soir, mais elle ne s'est pas déroulée comme si de rien n'était. On a assisté, Julien Froment, à un geste symbolique très fort avant le coup d'envoi.
Ouais, effectivement. Ce soir, on ne retient ni le score 5-1 ni le triplé de Neymar, mais tous les joueurs, turcs et parisiens à l'unisson, ainsi que les arbitres, encerclent dans le rond central, juste avant le coup d'envoi, pendant l'hymne de la Ligue des Champions, un genou à terre, le poing levé. Un geste en référence au mouvement mondial Black Lives Matter, qui lutte contre les discriminations raciales. Ils portaient tous aussi un t-shirt avec écrit dessus « Non au racisme ». La veille, les joueurs, en signe de protestation, avaient quitté le terrain. Une décision saluée par l'entraîneur parisien Thomas Tuchel.
Ils ont pris une décision forte hier et ils ont montré solidarité avec l'adversaire. C'est une décision forte, c'est une décision avec beaucoup de courage. Et dans les vestiaires, c'était vraiment clair qu'ils veulent montrer cette réaction. Et ils sont des adultes et voilà.
Julien, après de longues heures de silence hier soir, est-ce que ça y est, l'UEFA a enfin pris la mesure de l'incident?
Alors oui et non. Oui, car une enquête, je cite, approfondie a été diligentée par l'UEFA. Un inspecteur a été désigné, mais cela reste assez flou pour le moment. L'instance européenne a suspendu, certes, le carton rouge donné à l'entraîneur assistant turc Achille Webo. Le quatuor arbitral roumain a été écarté du match, mais il faudra encore attendre quelques jours, voire quelques semaines pour connaître les conclusions de l'enquête de l'UEFA, qui a fait preuve de beaucoup d'inertie dans ce dossier.
Merci beaucoup Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Autre club français engagé ce soir en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille joue en ce moment sur la pelouse de Manchester City. Le score est pour l'heure de 0-0. Les Olympiens peuvent encore être reversés en Europa League si l'Olympiakos ne s'impose pas dans l'autre rencontre du groupe C. Et c'est plutôt bien parti vu que Porto mène 1-0 face aux Grecs.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
Il ne s'appelle plus projet de loi contre les séparatismes, mais projet de loi confortant les principes républicains. Un changement de nom, mais pas d'objectif, lutter contre l'islamisme radical. Jean Castex l'a clairement dit ce midi en présentant ce texte. Jean-Rémy Baudeau, que contient finalement ce projet de loi qui fait couler beaucoup d'encre?
Eh bien, ce sont une cinquantaine d'articles qui reprennent en somme ce qu'Emmanuel Macron avait annoncé début octobre lors d'un discours aux Mureaux. Dans le détail, le texte renforce le contrôle sur le fonctionnement et le financement des associations et des lieux de culte, prévoit un meilleur encadrement de la haine en ligne, protège mieux les fonctionnaires contre les menaces et les violences, il interdit les certificats de virginité. Enfin, il permet notamment d'étendre la neutralité aux salariés des entreprises qui ont une délégation de service public. En gros, pour faire simple, un chauffeur de bus ne pourra plus refuser de conduire après une collègue femme. 51 mesures, le mot islamisme n'est pas inscrit dans la loi, mais le Premier ministre l'a repris à son compte dès le début de son intervention.
Le travail de sape que je viens de décrire est bien souvent le fait d'une idéologie pernicieuse portant le nom d'islamisme radical. Cette idéologie a pour objectif de diviser les uns et les autres et de répandre dans la société la haine et la violence. C'est ce que nous appelons le séparatisme. Face à cela, la République entend se défendre. Ce texte doit permettre de donner à l'État de nouveaux moyens d'action afin de mieux garantir le respect de ses principes.
Jean-Rémy, il y a aussi des points sur lesquels le gouvernement a reculé par rapport au projet de départ.
Alors, vous le disiez au début, le titre, qui effectivement ne cite pas le mot séparatisme, mais parmi les reculs les plus importants, il y a la question de l'école à domicile. Emmanuel Macron avait affirmé aux Mureaux que l'instruction à domicile serait interdite, sauf pour raison de santé. Concrètement, les parents devront finalement demander une autorisation à l'académie. Des contrôles seront effectués. Le gouvernement cède après un avis du Conseil d'État, mais aussi sous la pression des associations. Et ce point illustre la difficulté du gouvernement dans ce dossier. Viser large pour ne pas stigmatiser telle ou telle religion. En un mot, lutter contre l'islamisme radical sans stigmatiser les musulmans.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Et parmi les opposants les plus fervents à ce texte, on trouve la France insoumise et son chef de file Jean-Luc Mélenchon.
Il s'agit de surfer sur une sorte de vague hostile aux musulmans. Premièrement, du bavardage inutile qui rajoute à des lois qui existent déjà. Deuxièmement, une couche de type purement concordataire, c'est-à-dire que c'est la logique de l'État organise les religions, négocie avec elles leur fonctionnement. Et enfin, ce qui à nos yeux n'est pas le moindre, sous prétexte de lutte contre telle ou telle dérive possible, des dispositions qui sont dans la loi, qui sont tout simplement liberticides. Il ne faut pas compter que ça se passe tranquillement, je veux dire au sens, ça ne sera pas un long fleuve tranquille. On ne laissera pas passer cette loi comme ça. Ce n'est pas une petite bataille pour nous.
Jean-Luc Mélenchon au micro européen de Claudia Bertram. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, a indiqué travailler à un texte pour renforcer la lutte contre les casseurs lors des manifestations. Incidents qui se sont multipliés ces dernières semaines en marge des cortèges contre la loi sécurité globale. Mais pour l'heure, l'urgence du gouvernement, c'est le 15 décembre. Le déconfinement aura-t-il lieu comme prévu initialement? Rien n'est moins sûr. Jean Castex livrera demain à 18h arbitrages. Ce qui semble acquis, en revanche, c'est que l'objectif du gouvernement de 5000 cas quotidiens ne sera pas atteint d'ici la semaine prochaine. C'est simple, il faudrait que l'on divise par 3 le nombre d'infections. 14 500 nouvelles contaminations ont été recensées ces dernières 24 heures. Chiffre en hausse par rapport à hier. Et nous ne sommes pas les seuls à redouter le pire pour la fin d'année. L'Allemagne, la bonne élève européenne lors de la première vague au printemps, éprouve les plus grandes difficultés à faire baisser le nombre d'infections. Environ 20 000 nouveaux cas sont recensés chaque jour. Et signe de la gravité de la situation, Angela Merkel est apparue extrêmement alarmiste aujourd'hui devant les députés. Hélène Kohl, les Allemands n'avaient encore jamais vu leur chancelière dans cet état.
Oui, et c'est parti d'un coup. Au début de son discours devant le Parlement, la chancelière était encore, comme à son habitude, posée, pragmatique. Elle a égrené froidement les derniers chiffres et au moment d'évoquer les 590 morts d'hier, un record, on a senti que l'émotion montait. Les chiffres sont là, ils sont trop hauts, ce sont des faits, la science est formelle, il faut réduire les contacts sociaux. « Arrêtez de vous voir », implore-t-elle. Visiblement débordée, on l'a même entendue crier, elle joint les mains comme une prière, sa voix se casse à plusieurs reprises, notamment quand elle évoque les risques autour de Noël.
« Avant Noël, avant de retrouver papy et mamie, il faut réduire au maximum ses contacts pendant une semaine. Et nous devrions peut-être encore pousser pour que les vacances ne commencent pas comme prévu le 19 décembre, mais le 16. Qu'est-ce qu'on dira de nous si au regard de cette épidémie historique, nous n'avons pas été capables de trouver une solution pour ces 3 jours de classe? Surtout si après, il n'y a plus jamais Noël avec les grands-parents. »
Plusieurs lenders semblent avoir entendu cet appel vibrant et annoncent que les écoles seront fermées dès la semaine prochaine et ce jusqu'au 10 janvier, ce sera le cas en Saxe par exemple, et l'on s'oriente vers une fermeture de tous les commerces non essentiels pendant plusieurs semaines après Noël.
Hélène Cole, correspondante d'Europe 1 à Berlin. À Bruxelles, Boris Johnson s'entretient en ce moment même avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Rencontre cruciale pour le sort des négociations sur un accord post-Brexit. L'Union européenne qui a ce soir un autre dossier urgent à traiter. Son agence des médicaments annonce avoir été victime d'une cyberattaque. C'est inquiétant, d'autant que l'EMA est en train d'analyser les résultats de plusieurs vaccins contre le Covid. Est-ce qu'on en sait plus, Clément Le Saffre ?
Oui, il semblerait bien que les hackers aient obtenu ce qu'ils étaient venus chercher. Ils ont réussi à pénétrer dans les serveurs de l'agence et à dérober des documents liés au vaccin du laboratoire Pfizer, des données sensibles qui n'étaient pas là par hasard. L'Agence européenne des médicaments examine en ce moment même les différents vaccins contre le Covid en vue de leur mise sur le marché. L'agence n'a pas précisé quand a eu lieu cette cyberattaque. Elle s'est contentée d'indiquer qu'une enquête est en cours. Pfizer, de son côté, a fait savoir que ce piratage n'avait pas affecté son propre réseau informatique. Cette attaque n'est pas vraiment une surprise. Dans une note publiée fin novembre, Kaspersky, entreprise spécialisée dans la cybersécurité, alertait sur la multiplication ces derniers mois des attaques contre les entreprises pharmaceutiques et les établissements de santé. Il y a un an, le CHU de Rouen en avait d'ailleurs fait l'amère expérience. Un virus avait éteint d'un coup les 6000 ordinateurs de l'hôpital. Il avait fallu une semaine pour restaurer le système.
Voilà qui n'est pas très rassurant. Merci Clément Le Saffre. En France, les secteurs les plus touchés par la crise vont pouvoir souffler encore un peu. Comme Europe 1 vous le révélait ce matin, le gouvernement a décidé de prolonger jusqu'au 31 janvier le dispositif de chômage partiel à 100%. La mesure devait initialement s'arrêter fin décembre. Ces aides massives sont bien évidemment vitales pour de nombreuses entreprises, mais ne seraient-elles pas en train de fausser l'ampleur de la crise ? C'est en tout cas la question que l'on peut se poser ce soir à la découverte de ces chiffres. Le nombre de défaillances d'entreprises n'a jamais été aussi bas, Olivier Samin.
Et oui, 37% de défaillances d'entreprises en moins au cours des 3 mois qui viennent de s'écouler, comparé aux mêmes 3 mois de l'année 2019. Alors que souvenez-vous, c'est pas si loin, même si s'est passé beaucoup de choses depuis, l'année 2019 était un très bon millésime sur le plan économique, avec donc déjà un faible nombre de défaillances d'entreprises. Les greffiers des tribunaux de commerce qui font ce constat anticipent pour l'ensemble de l'année 2020 15 000 défaillances d'entreprises en moins. Paradoxal, effectivement, au regard de la crise qui frappe aujourd'hui l'économie française. Mais l'explication est simple. Les entreprises continuent d'être sous perfusion avec l'activité partielle, les aides du Fonds de solidarité, les reports et les exonérations de cotisations sociales et les prêts garantis par l'État. Elles ne subissent donc pas la violence du choc. En tout cas, pas encore. Mais le jour arrivera où il faudra stopper ces dispositifs. C'est le sujet sensible dans les ministères concernés. Comment réduire petit à petit cette perfusion qui permet aux entreprises de garder la tête hors de l'eau pour empêcher une déflagration économique et sociale, sachant que le retour à meilleure fortune de l'économie française risque de prendre du temps.
Olivier Samin, la déflagration économique et sociale n'est peut-être pas encore là, mais certaines entreprises sont d'ores et déjà au pied du mur. C'est le cas d'Aéroports de Paris. Les organisations syndicales d'ADP ont signé aujourd'hui un accord avec la direction, accord de rupture conventionnelle collective fixant à 1150 le nombre de départs volontaires, dont 700 ne seront pas remplacés.
Europe Soir, Julien Pierce.
Jamais de la prison ferme n'avait été demandée contre un ancien président de la République. C'est pourtant bien ce qui s'est passé hier au procès de l'affaire dite des écoutes. 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, ont été requis contre Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert. Place aujourd'hui aux plaidoiries de la défense. L'avocate de l'ex-chef de l'État, maître Jacqueline Lafont, a fermement répondu aux réquisitions du parquet et demandé la relaxe de son client, Gladys Laffitte.
Oui, durant 2 heures et sous les yeux de nombreux soutiens présents dans la salle, dont Carla Bruni-Sarkozy, maître Jacqueline Lafont s'est employée à déconstruire le dossier, le regard bien tourné vers le parquet national financier. Et c'est d'abord à leur réquisition qu'elle a répondu, avec ces mots. Ce ne sont pas quelques formules choc finales qui pourront masquer les faiblesses et le vide de l'accusation. La sévérité n'a jamais créé la preuve. Pour l'avocate de Nicolas Sarkozy, il n'y a pas le début du commencement d'une preuve. Pas d'éléments matériels, pas de témoignages pour accréditer la thèse d'un pacte de corruption, mais seulement une interprétation de conversation, jugée illicite et scandaleuse, des bavardages entre amis, entre clients et avocats. Elle a donc demandé la relaxe pour son client, assis attentivement, mains jointes devant elle, une relaxe pour faire la démonstration d'une justice simple, forte, libre et courageuse au-delà de toute forme de pression, a-t-elle conclu.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. 25 ans de réclusion criminelle requis contre l'incendiaire présumé de l'immeuble de la rue Mira à Paris, un drame dans lequel 8 personnes avaient péri en septembre 2015. Cet homme est dangereux, il ne maîtrise pas ses pulsions, a affirmé l'avocat général devant la cour d'assises de Paris. Le verdict est attendu demain. Et puis aux États-Unis, on vient de l'apprendre, le fils de Joe Biden annonce être visé par une enquête sur sa situation fiscale. On vous en reparlera bien évidemment dans nos prochaines éditions. On passe à la météo. Prudence, ce soir, 2 départements sont en vigilance orange. Risque d'avalanche dans les Pyrénées-Atlantiques et risque de crue dans les Landes. Anissa Haddadi, il va y avoir demain de la neige au programme.
Et ça commence dès cette nuit, Julien, avec d'abord sur toute la façade ouest de la pluie. Nous avons cette perturbation arrivée hier par la Bretagne et qui va traverser toute la France. Dans la matinée, les pluies arrivent sur l'Auvergne et le golfe du Lion. Et puis sur le Limousin, le Massif central et l'Ardèche dans toutes ces régions. Attention, demain matin, la neige tombe en abondance et à basse altitude, dès 300 mètres. Dans l'après-midi, les chutes de neige vont faiblir. Elles se concentrent principalement sur le quart sud-ouest, avec d'ailleurs sur les Pyrénées un risque d'avalanche assez important, puisque nous avons chute de neige et pluie en même temps. Dans la région parisienne et jusqu'à l'Alsace, sur les Alpes, jusqu'à la Côte d'Azur, la journée est très ensoleillée demain malgré un léger voile nuageux. En Alsace et sur les Hauts-de-France, attention au brouillard tenace demain après-midi. Partout ailleurs, le ciel est bien gris et l'atmosphère très humide. Les températures s'abaissent encore demain matin avec moins 7 à Embrun dans les Hautes-Alpes, moins 5 à Annecy, moins 3 à Grenoble, moins 2 à Nancy et Belfort, moins 1 à Nîmes et Clermont-Ferrand, 2 degrés à Lille, 3 à Paris, 7 à La Rochelle et 8 à Brest. Et puis dans l'après-midi, c'est stationnaire quasiment comme aujourd'hui. Nous aurons 3 à 15 degrés, 3 pour Metz, 8 à Paris et 15 à Biarritz.
Merci Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com, suivi de l'interview Echo. Premier vol commercial aujourd'hui pour le Boeing 737 MAX, modèle qui était cloué au sol depuis 20 mois après 2 crashs mortels. Emmanuel Duteil reçoit à ce sujet Eric Schulz, spécialiste de l'aérien et ancien directeur commercial d'Airbus. A tout de suite.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Wall Street marque une pause après avoir enchaîné des records historiques.
Voilà, on marque une pause après les sommets. Le Dow Jones perd 0,36%, 30 065 points. Le Nasdaq chute de 1,94%, 12 338 points. Et il faut dire qu'il y a des prises de bénéfices sur les valeurs technologiques et ça pèse donc sur le Nasdaq. Apple retombe de 2%, moins 1,9% pour Facebook, qui est par ailleurs accusé d'entrave à la concurrence aux États-Unis, moins 2,3% pour Amazon. La séance a été marquée par plusieurs introductions en bourse, dont celle du service de livraison de repas DoorDash. Une introduction réussie avec un titre qui flambe de plus de 80%. Demain, ce sera au tour de Airbnb de faire ses premiers pas en bourse. Rendez-vous très attendu pour la plateforme d'hébergement. Le pétrole perd 0,3%, $45.43 le baril à New York. Et puis l'euro, 7,03% et s'échange contre $1.2069.
À Paris, le CAC 40 poursuit sa consolidation. Il a basculé dans le rouge en toute fin de séance.
Oui, c'est une troisième séance dans le rouge pour le CAC 40 qui perd 0,25%, 5 546 points. Le marché a été freiné notamment par le dossier Brexit avec des discussions interminables. La chute du jour à Paris est pour ST Microelectronics. Le fabricant de puces revoit en baisse ses objectifs à cause de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, à cause aussi des sanctions contre le groupe Huawei. Huawei, c'est le principal client de ST Microelectronics et l'action chute donc logiquement de 12% ce soir.
En revanche, le secteur automobile s'en sort nettement mieux.
Oui, avec de fortes progressions pour le fabricant de pneus Michelin, plus 1,2%, mais aussi pour les constructeurs Renault et Peugeot. Le groupe familial Peugeot a annoncé, après la clôture du CAC 40, avoir fait monter comme prévu sa part du capital de Peugeot SA de 2%, ce qui la porte à 14,38% précisément. Les marchés européens ont terminé dans le désordre. Londres gagne 0,3%, Francfort monte de 0,5%, Madrid gagne 0,1%, mais Milan perd 0,4%, et à Paris, le CAC 40 cède 0,25%, 5546 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de boursier.com et à demain. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Eric Schulz.
Bonsoir Emmanuel.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes spécialiste de l'aérien, ancien cadre notamment de chez Airbus. Si on a voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que le Boeing 737 MAX, ce fameux avion qui a connu plusieurs accidents, a enfin revolé et il a fait un vol commercial avec la compagnie brésilienne Gol qui s'est passé aujourd'hui sans encombre entre Sao Paulo et Porto Alegre. C'est un sacré symbole ce premier vol commercial pour cet avion qui a eu tant de soucis.
C'est pas tout à fait le premier vol parce que la semaine passée, American Airlines a fait un vol non commercialisé.
Oui.
Donc un vol avec uniquement des journalistes.
Mais là, c'était la première fois qu'il y avait de vrais passagers, je crois, sur un avion qui compte 186 passagers normalement. Là, il était plein à 88%. Et pour être précis, il a décollé sur un rythme doux de bossa nova.
Voilà, c'est un moment très très important évidemment pour Boeing. Ça fait en gros quasiment 2 ans que Boeing attend ce moment-là. Et c'est évidemment très symbolique parce que ça signe maintenant le retour du 737 MAX aux affaires. C'est un signal très important pour toutes les compagnies aériennes qui en ont dans leur flotte. Je précise simplement qu'à aujourd'hui, uniquement les avions américains et brésiliens peuvent voler. Puisque les autres autorités de tutelle dans le reste du monde et notamment en Europe n'ont pas encore revalidé le retour aux affaires et le retour en service du 737 MAX.
Ça devrait intervenir quand, ces possibles accords européens ?
L'IASA a eu une communication très ouverte il y a quelques jours de cela, en précisant que pour elle, d'abord, le dossier est complet et que normalement, la revalidation du 737 MAX devrait intervenir aux alentours de mi-janvier, deuxième quinzaine de janvier au plus tard.
Donc on peut estimer qu'au premier trimestre, tous les 737 du monde pourront revoler. Alors bien évidemment, il faut des passagers pour ça et sur ce point-là, c'est encore bien compliqué. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'a priori, du côté des compagnies aériennes, il y a une véritable volonté de les faire revoler. Malgré ces problèmes, il n'est pas question de les mettre au garage.
Une compagnie aérienne qui achète des avions, elle a comme référence la réglementation. Lorsque la réglementation lui dit que à partir du moment où les modifications faites sur l'avion et le training des équipages correspondantes à ces modifications ont été effectuées, elle peut réutiliser ses avions. Donc, si vous voulez, une compagnie aérienne, elle n'est pas là pour faire de l'émotionnel ou de l'analyse. Bien sûr, elle va avoir sa propre analyse, à savoir si elle est satisfaite avec ce qu'on lui dit. Mais à partir du moment où, l'échelon réglementaire, qui dans l'aéronautique est l'organe de décision, à partir du moment où l'échelon réglementaire valide le retour en vol, les compagnies aériennes qui ont investi des montants faramineux dans ces avions sont bien entendu relativement pressées de les remettre en service à partir du moment où tous les éléments probants sont en place.
Malgré tout, le 737 MAX a souffert de beaucoup d'annulations de commandes depuis les accidents à répétition. Boeing doit quand même convaincre de la fiabilité de son avion.
Oui, mais ça, je dirais, oui, bien sûr. Et là, le cas est quand même un petit peu particulier parce que l'avion a commencé à voler, puis a eu 2 accidents avec beaucoup de morts. Les modifications ont été faites, ça a duré quand même pas mal de temps, donc il va y avoir un vrai travail d'explication de Boeing et des autorités de tutelle.
Sur cette fiabilité, la meilleure nouvelle, c'est la très grosse commande qui a été faite, je crois, la semaine dernière par le patron de Ryanair. Ça vient confirmer qu'une des plus grosses compagnies au monde, en tout cas en nombre d'avions, est très confiante sur cet avion.
Absolument. Ryanair a un petit peu, je dirais, le dos au mur, dans le sens où c'est un opérateur historique de 737. C'est aussi un très gros... Ryanair avait déjà une très grosse commande de 737 MAX. Je dirais que le fait que Ryanair se positionne aujourd'hui, ce qui n'est pas très surprenant, parce que je pense que beaucoup de compagnies aériennes, notamment celles qui dépendent immensément du 737, vont avoir la volonté de rassurer leurs clients et aussi de rassurer Boeing pour faire en sorte que le 737 redécolle, redémarre, parce qu'il est absolument essentiel. Il y a Ryanair dans ce cas-là. C'est intéressant que Emmanuel vous citiez Ryanair. Il y a Southwest de l'autre côté de l'Atlantique.
C'est une grosse low-cost américaine.
Absolument, grosse low cost américaine. Jim Kelly, son président, a fait une déclaration sensiblement équivalente à celle de Michael O'Leary de Ryanair, où les deux ont dit, bah, écoutez, nous ce qu'on considère aujourd'hui, c'est que l'avion a été, le design et l'avion ont été scrutés sous toutes ses coutures et qu'aujourd'hui c'est un avion qui est probablement plus en sécurité que n'importe quel autre avion au monde, tant il a été, je dirais, regardé dans tous ses détails.
Mais vous qui êtes un spécialiste de l'aérien, hein, par exemple dans votre carrière, vous avez dirigé les moteurs de Rolls-Royce, donc vous connaissez mieux que personne comment on fabrique un avion. Vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que ça ne peut pas, oui, il a tellement été regardé sous toutes les coutures qu'il est sûr s'il revole.
Oui, non mais attendez, là clairement, Emmanuel, je vais vous dire, moi personnellement, je prendrai un billet d'avion demain et je serai assis dans un 737 Max, je n'aurai absolument aucun a priori et certainement pas négatif parce qu'effectivement, l'avion a été scruté sous toutes ses coutures et il faut aussi reconnaître que si vous voulez, tant Boeing que la FAA, ils ont quand même été très sérieusement secoués par toute cette affaire. Ils sont en manque ils ont un besoin pressant de regagner leur crédibilité. Mmh. Et donc, ce que je pense, c'est que, je pense même que, si vous voulez, le retour du MAX a probablement été décalé par le fait que la FAA est absolument allée scruter tous les recoins de l'avion pour être sûr que lorsqu'ils le remettent en route, ça ne s'arrête pas la semaine suivante.
Donc
évidemment, je n'ai aucun doute, moi personnellement, sur la fiabilité du 737 Max. Ce sera un avion qui va prouver dans l'avenir que l'avion a effectivement regagné toute sa capacité en matière de sécurité.
Eh bien, un grand merci Eric Schulz, spécialiste de l'aérien, d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1. On se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. Emmanuel que l'on retrouvera demain à partir de 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Le thème de demain, l'alimentation de nos animaux, vaste sujet qui sera abordé en compagnie du directeur général de Royal Canin. Restez avec nous, dans un instant on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux quotidiens qui sont nombreux à revenir sur l'image de la soirée. Ces 22 joueurs du PSG et du Başakşehir, genoux à terre avant la reprise du match interrompu hier. Racisme, les joueurs prennent la main, titre Libération avec comme illustration une photo de Kylian Mbappé, le poing levé. Hier soir, tous sont sortis du terrain après les propos supposés racistes d'un arbitre lors du match. Un coup d'éclat fondateur, collectif et radical dans l'engagement des footballeurs contre les discriminations, écrit Libé. Point final, s'interroge pour sa part 20 minutes, point P-O-I-N-G. Le racisme sur la touche, titre l'Humanité. Le football fait front contre le racisme, ajoute West France. Paris et Başakşehir, main dans la main, conclut le Figaro. Figaro qui consacre sa une au Covid. Un an après, l'origine du virus reste un mystère, titre le journal. Et pour cause, la Chine refuse toujours aux scientifiques étrangers l'accès à l'endroit où l'épidémie a explosé, la ville de Wuhan et son marché aux animaux vivants. Un blocage qui entrave l'enquête en cours et permet à Pékin d'insister sur l'idée controversée que le virus n'est pas apparu sur son sol, mais à l'extérieur de ses frontières. Une théorie bien pratique qui éclipse la mauvaise gestion du début de l'épidémie, ajoute le Figaro. Covid-19, le fiasco de la data, titre pour sa part l'opinion. Les commerces sont sont-ils vraiment des lieux de contamination? Et les écoles, s'interroge le quotidien libéral qui pointe les carences de l'État en matière de données statistiques. Mais les choses sont en train de bouger. Enfin, se réjouit l'opinion. Dans les prochains jours, le professeur Arnaud Fontanet va dévoiler une étude attendue sur les principaux lieux de contamination de la Covid-19. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Vous allez bien?
Parfaitement bien.
Tant mieux. 3921 pour vous appeler et témoigner dès maintenant dans la libre antenne qui s'ouvre donc tout de suite et ce jusqu'à 1h du matin.
Exactement, et on se retrouve dans une petite demi-heure pour le flash.
À tout de suite.
À tout à l'heure.
Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.